à la rencontre de la liberté. La série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
Après avoir organisé un concours d'essais sur la thématique de la liberté d'expression en automne dernier, nous approfondissons ces questions aujourd'hui en rencontrant un acteur au contact quotidien de la liberté d'expression, le dessinateur Patrick Chapatte. Bonjour Patrick Chapatte.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, et puis aussi par la suite, comment est-ce que vous êtes venu au métier de dessinateur de presse.
Ok, je vous fais la totale, alors ma biographie. On vient de le dire, je m'appelle Patrick Chapatte, je suis dessinateur de presse depuis à peu près tout le temps, c'est-à-dire longtemps. Je ne sais pas s'il faut donner des chiffres qui vont se retourner contre moi, mais en fait, je suis tombé dedans très jeune, au collège déjà. J'avais un intérêt, une passion pour l'actualité déjà. Vous savez, tout remonte au papa pour les petits garçons. Donc mon papa était abonné à un journal qui n'existe plus, qui s'appelait La Suisse à Genève, qui était un journal à la fois le premier journal genevois et le premier journal roman. Donc c'était intéressant. Et un journal populaire. Ça, c'était le journal auquel mon père était abonné, plus Newsweek. Il avait le magazine Newsweek chaque semaine à la maison. Et je n'ai eu de cesse, depuis ce jour, d'épater mon papa en publiant des dessins, d'abord dans La Suisse, puis dans Newsweek. Voilà, c'était l'ambition du petit garçon. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. En troisième du collège, j'ai envoyé une bande dessinée politique, en fait, qui s'appelait Le Noël éthiopien. L'ambassade d'Éthiopie à Genève, on lui faisait le reproche de faire des dépenses somptuaires alors qu'il y avait la famine en Éthiopie. Donc j'ai envoyé une BD qui est parue dans le journal et j'ai eu ce shoot d'adrénaline et de bonheur de voir un dessin publié dans cette chose qu'on décrira bientôt à nos enfants, petits-enfants, c'est-à-dire un journal papier. C'était quelque chose d'assez magnifique à vivre. Et voilà. Et puis quelques années plus tard, j'ai aussi commencé à faire une collaboration un petit peu éphémère avec Newsweek aux États-Unis, mais on pourra en reparler plus tard. Donc je suis tombé dans le dessin de presse déjà encore collégien. J'ai livré des dessins, des illustrations à ce journal La Suisse. Puis ils m'ont demandé des contributions sous forme de textes, des piges. Arrivé à la Matu, je me serais destiné à l'histoire et à la philo. C'était un peu ça que je visais. Et puis, à ma grande surprise, le journal La Suisse m'a proposé de faire un stage qui durait 2 ans, qui était une formation dans le journal qui aboutissait ensuite à la carte de presse. Donc j'ai pensé faire ça comme une parenthèse. Et puis pendant ces 2 ans, ironie du sort, il y a la place de dessinateur de presse s'est libérée dans ce journal. Et j'ai dit, j'aimerais bien essayer. Et je suis tombé là-dedans, voilà, dans le dessin de presse. Et je ne l'ai plus quitté parce qu'il m'a ouvert plein de possibilités, de portes et de choses étonnantes.
Peut-être, aujourd'hui, à quoi ressemble l'une de vos journées ? Comment est-ce que vous trouvez aussi vos idées ?
Alors, mes journées sont très ennuyeuses. C'est la journée d'un fonctionnaire de l'imagination. Non, c'est pire, c'est un ouvrier, parce que je vais tous les jours à l'usine et je produis des idées. C'est une usine à idées. Alors, ça doit être bon pour les neurones. Je pense que ce sera assez bon pour les neurones. Parce que ça les entraîne tout le temps, mais par contre c'est assez c'est un marathon, donc c'est un mélange d'ouvriers et de sportifs, parce que j'ai à peu près chaque jour un deadline différent avec un titre différent, puisque aujourd'hui je collabore au journal Le Temps, évidemment, en Suisse alémanique à la NZZ du dimanche, ça c'est en Suisse, je collabore au Canard Enchaîné, au Spiegel en Allemagne et au Boston Globe aux États-Unis. Donc, si vous voulez, chaque jour, il y a un petit peu, évidemment, les zones horaires ne sont pas les mêmes, les deadlines ne sont pas les mêmes, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'une fois que j'empoigne un sujet d'actualité sur lequel je vais amener mon regard, mon point de vue, mon gag peut-être, je vais m'y atteler. En général, je me donne 2 heures pour trouver des idées. Donc, c'est là qu'est l'usine à idées. Donc, je produis une pâte régulière. Je produis en général 5 à 6 idées sur un sujet donné. Et ensuite, j'ai un processus qui va nous intéresser, parce que c'est un peu le sujet de votre discussion, c'est sur la liberté, comment on la pratique. Donc la liberté d'expression du dessinateur de presse, elle se pratique dans un cadre qui est déjà la relation avec le journal, et ensuite avec les lecteurs, et ensuite le cadre de la société dans laquelle on est. Donc moi, sans qu'on me l'ait jamais demandé, je me suis donné cette discipline qui est de produire 5-6 idées et de les confronter, enfin de les montrer, de faire un sondage en fait. Donc j'envoie ces idées à la rédaction et je demande des votes. Alors c'est intéressant parce que ensuite je reçois évidemment un nombre de votes que je compile et puis je choisis le dessin que je vais faire. Alors c'est assez souvent, vous vous demandez, c'est assez souvent celui qui va venir premier dans le feedback de mes amis journalistes, mais pas toujours. Par contre, c'est rarement, voire jamais, celui qui va arriver en dernier. Donc en fait, c'est un processus éliminatoire pour moi, c'est pas un processus sélectif. C'est à moi d'assumer et de signer le dessin que je publie. Mais par contre, il n'y a pas de contradiction à avoir un processus collaboratif pour moi et à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. L'un va très bien avec l'autre. Et c'est là, c'est dans cette articulation qu'est, je pense, ma définition de ma manière de pratiquer la liberté qui va avec mon métier. D'autres dessinatrices ou dessinateurs vont dire, voilà, moi je livre un dessin et puis c'est, ça passe ou ça casse. C'est ça la définition de la liberté d'expression. La mienne est un peu plus souple et compliquée parce que tout est dans le va-et-vient éditorial pour moi. Un va-et-vient avec la rédaction, avec les lecteurs. C'est là que c'est un exercice intéressant. Et voilà, pour finir ma journée, je vais ensuite réaliser le dessin finalement choisi, et ça va prendre 2 heures, 2 heures et demie facilement.
Vous avez évoqué le fait que vous travaillez pour différents titres, comme en Allemagne, aux États-Unis ou en Suisse. Comment est-ce que vous gérez ces différences culturelles? Est-ce qu'il y en a dans le dessin de presse? Comment est-ce qu'on peut être drôle dans différentes cultures ou dans différentes langues?
Est-ce qu'on est drôle? Est-ce que je suis drôle en allemand? C'est pas sûr. Mais en fait, le processus que j'ai décrit tout à l'heure de va-et-vient éditorial et de soumettre mes esquisses et d'avoir un retour dessus, il était aussi grandement justifié par le fait que justement je travaillais avec des cultures différentes et dans des langues que je ne maîtrise pas. Donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant 18 ans avec le Herald Tribune puis le New York Times. L'anglais n'est évidemment pas ma langue maternelle. Je vais essayer d'éviter un maximum les jeux de mots. De toute façon, les Anglais sont pas... L'humour anglais n'est pas énormément porté sur les jeux de mots. Ça, c'est très français comme manière de... comme esprit, en fait. Hein. Mais clairement, ça m'est encore arrivé hier. J'ai utilisé l'adjectif conspirationniste, qui existe, mais pas vraiment, enfin qui sonne bizarre en anglais. Parce que si c'est une personne, c'est un conspiracy theorist. Parce que c'est... Voilà. Donc, voilà, il y a des mots qui me viennent naturellement, mais qui ne marchent pas. Il y a des mots que je vais utiliser qui ont un double sens, etc. Donc, ce va-et-vient éditorial, il était déjà justifié par ça, pour avoir un retour sur comment les mots résonnent et les idées résonnent dans une autre langue. Mais ensuite, je pense quand même que tout vient à peu près du même cerveau qui est le mien, et je le mets pas... Il n'y a pas le cerveau gauche qui réfléchit en français et le cerveau droit en anglais. Donc, si vous voulez, la réponse à votre question, c'est que les titres pour lesquels je travaille sont dans des... sont des titres qui s'adressent à un lectorat finalement pas très différent. Le New York Times aux États-Unis, Le Temps en Suisse, hein, écoutez, la NZZ, c'est un type de lectorat qui a des références quand même aujourd'hui qui sont communes. Et je pense que c'est là qu'est la grande différence. Travailler pour la NZZ ou pour le Blick, c'est beaucoup plus... Là, l'exotisme sera beaucoup plus grand que travailler pour la NZZ ou pour le New York Times, par exemple.
Sur ces thèmes que vous choisissez, comment est-ce que vous les choisissez? Par exemple, les 5 thèmes que vous soumettez à une rédaction, comment est-ce que vous les choisissez? Et surtout, est-ce qu'il y a des thèmes que vous vous interdisez, que vous décidez dès le départ de ne pas traiter?
Donc les 5, je vous ai parlé des esquisses, c'est sur un même thème. Hein. Je vais choisir le sujet du jour et je vais envoyer plusieurs esquisses. Sauf avec le canard enchaîné, parce que le canard enchaîné... C'est le lundi, c'est ouvert. Je vais faire la plupart du temps une esquisse sur un thème, puis en chercher une autre sur un autre thème, parce que là, c'est un journal où il y a beaucoup de dessins, et donc il faut essayer plusieurs pistes. Mais le choix du thème, c'est supposé. Enfin, on essaye de voir quel est le thème du jour, du moment, de la semaine, le thème qui fait débat, le thème qui m'intéresse, voilà. Le choix du sujet, il est assez personnel. Je le fais aussi en consultation avec la rédaction, avec le sommaire du Temps, par exemple, ou de la NZZ, mais finalement, c'est un choix plus ou moins de pertinence, quoi. Quel est le sujet du moment sur lequel on a envie de voir un dessin, un point de vue ou un petit peu de distance. Et bah, l'actualité se renouvelle sans arrêt, sauf si vous avez remarqué un tout petit peu cette dernière année, parce qu'il y a un thème qui m'occupe à peu près, on parle plus de Trump là, qui m'occupe à peu près à je sais pas, 60-80%, c'est le Covid, quoi. Le Covid a tout envahi, c'est une première dans mon métier. Le précédent le plus comparable, c'était la crise financière de 2008. J'ai dessiné pendant 3 semaines sur le même sujet. Le 11 septembre m'a occupé pendant quelques semaines. Mais là, ça fait juste un an qu'il n'y a qu'un seul sujet. Donc, c'est un petit peu à se flinguer. Sauf que le Covid englobe tous les autres thèmes, évidemment. Économique, social, tout. Donc, mais c'est un vrai exercice de renouvellement, là, c'est pour le coup. C'est une vraie... une vraie gymnastique. Comment se renouveler dans un même thème? C'est nouveau.
Et est-ce que vous vous interdisez certains thèmes, ou même, par exemple, avec le Covid, sur certains aspects qui peuvent être peut-être, je ne sais pas, tabous dans nos sociétés? Est-ce que certains thèmes sont, dès le départ, chez vous, éliminés?
Je ne dirais pas ça aussi clairement, mais néanmoins, pour être sincère, il y a des thèmes sur lesquels je vais trouver plus difficile de trouver une entrée, par exemple. C'est vrai que si maintenant, le grand thème de société, c'est l'inceste, de même qu'il y a quelques années, enfin, c'est des thèmes liés, la pédocriminalité, les marches blanches, des thèmes très émotionnels, comme ça. C'est des thèmes dans lesquels je vais me poser la question 3-4 fois avant d'y entrer, parce que je vais essayer de trouver qu'est-ce que j'ai à dire et à amener sur ces thèmes. Et bien, bien souvent, ce qui va être intéressant dans ces thèmes, c'est la manière dont nous, société, peut-être nous focalisons dessus. Mais là où j'ai pas grand-chose à amener, c'est sur justement le côté tragique, le fait que voilà, il y a des victimes, si on parle d'inceste, des victimes dont aujourd'hui la parole se libère, et tant mieux. Mais là, j'ai pas grand-chose à amener et j'ai pas forcément envie d'en faire une blague. Je ne cite pas totalement innocemment ce thème, puisqu'il a été au cœur d'une actualité récente avec un dessin qui a fait débat. Vous avez remarqué que ça arrive de plus en plus. Il y a des dessins qui provoquent comme ça des débats vifs. Et il y avait ce dessin de mon confrère Xavier Gors dans Le Monde qui, justement, faisait une blague en abordant le thème de l'inceste sans vraiment le traiter. Hein. Enfin, c'était une manière un petit peu de biais de le traiter. Puis il a réussi à faire un combo en amenant en plus la notion de transgenre et des familles recomposées. Donc il a réussi à faire un paquet explosif dans cette période où les questions sociales, les questions de société, les questions d'identité et de genre sont très très sensibles. Et ça lui a sauté un peu à la figure dans le sens où Le Monde s'est excusé. Enfin, peut-être qu'on en reparlera un peu plus après. Mais je vous dis pas que j'ai des thèmes que j'évite a priori, mais il y a des thèmes que je trouve moins inspirants et où je dois vraiment trouver la manière d'entrer.
Sur la manière, peut-être, qu'est-ce que permet le dessin de presse ou le dessin que ne permet pas, par exemple, un article ou une autre forme d'expression sur ces thématiques aussi sensibles? Pourquoi cette méthode d'expression? Qu'est-ce qu'elle permet?
Écoutez, je crois qu'on ne va pas en faire un truc trop théorique, mais je pense que dans les nombreuses manières de décrypter le monde, c'est totalement incomparable. Évidemment, l'analyse écrite... D'abord, on est dans le domaine du commentaire, hein, de l'opinion, du point de vue. Donc, on ne va pas comparer ça au reportage. Ça, c'est autre chose. Mais le commentaire écrit, il sera toujours plus riche et nuancé est quelque part intellectuellement préférable, parce que c'est là qu'on peut dire le plus de choses et encore une fois, être dans la nuance. Le dessin de presse, il sera toujours partiel et partial, il amène un point de vue, un regard ou juste un gag un peu libérateur, mais son grand avantage, c'est évidemment que c'est un déclic, et il court-circuite l'intellect et la pensée, il va droit à l'estomac. Sa compréhension se fait en 3 secondes, donc dans un monde du zapping, c'est plutôt un avantage. Je sais pas, bon, il y a encore des gens qui écoutent des longs podcasts, donc tout n'est pas perdu, mais c'est ça la force du dessin. On le sait bien, c'est sa force et c'est sa, entre guillemets, faiblesse. C'est ce qui fait aussi qu'il est au cœur de l'actualité, c'est parce que les dessins sont vus, partagés, vus par des gens qui n'étaient pas forcément préparés à les comprendre. Donc ils ont, en réalité, c'est très très moderne. Comme c'est ça qui est marrant, c'est que on peut à la fois se poser la question si le dessin de presse est un peu obsolète et va mourir avec la presse écrite, avec laquelle il est né, ou bien au contraire, c'est un outil de compréhension extrêmement moderne parce que c'est une image et une image qui claque et qui vous prend à l'estomac. Donc moi, je suis persuadé que c'est très moderne et que le problème du dessin de presse, c'est pas son langage, mais c'est d'une part l'état de la presse, oui, et d'autre part les questions de société qui sont... Enfin voilà, on a une société qui est peut-être de plus en plus susceptible.
J'aurais une dernière petite question personnelle sur cet aspect de transition entre... vous êtes originaire du canton du Jura, puis maintenant vous travaillez pour des titres internationaux, notamment vous avez travaillé pour le New York Times, le Newsweek, donc des titres qui sont connus internationalement. Sur le plan personnel ou de la carrière, comment est-ce que vous avez vécu ça? Quelle différence est-ce que ça a apporté?
Ben, écoutez, le Jura, pour moi, c'est le pays de mes origines, c'est le pays de mon père, justement. Le pays de ma mère étant le Liban. Et le lien entre le Jura et le Liban, c'est déjà à travers leur relation qui s'est faite. C'est-à-dire, mon père a fui le Jura. il a choisi une branche de... Enfin, il a choisi un chemin dans l'horlogerie spécifiquement pour pouvoir voyager. Il voulait partir 10 ans et c'est ce qu'il a fait. Il est parti, au Liban, il a rencontré ma mère, il est parti au Pakistan, à Singapour, et après il est revenu en Suisse. Et donc ses enfants sont nés dans ces différents pays. Moi je suis né au Pakistan, et ça c'était inscrit dans, quelque part, dans, si ce n'est dans mes gènes, du moins dans ma petite enfance, quoi, l'idée de... à la fois d'être attaché à un endroit, mais de se projeter ailleurs. Et je sais pas, je l'ai fait assez naturellement. Je trouve que la Suisse est vraiment le pays idéal qui donne à ses enfants, nous autres, les petits Suisses, l'éducation, la sûreté de soi, l'opulence quand même, et nous projette dans le monde. On rencontre énormément de Suisses dans le monde et nous permet toujours d'y revenir, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. On est parti et revenu. La dernière fois, c'était à Los Angeles en 2014. On est allé en famille habiter un an. Et puis, j'aimerais bien pouvoir refaire un saut un jour temporaire, cette fois plutôt en Asie, par exemple. On verra. Mais la beauté du dessin de presse, c'est que je peux être à peu près n'importe où et envoyer mes dessins. Donc, j'ai inventé le télétravail. Bienvenue à tous dans mon monde. J'ai aussi un petit peu inventé le confinement, parce que c'est un métier solitaire. Mais le grand atout, c'est qu'on peut le pratiquer partout, quoi. Si on s'arrange avec le décalage horaire. Depuis Los Angeles, c'était un petit peu casse-gueule, mais ça a marché.
Parlons un peu de liberté d'expression maintenant. Mais qu'est-ce qui est pour vous fondamentalement important dans la liberté d'expression? Pourquoi c'est quelque chose qui vaut la peine d'être défendu?
Moi, je peux vous parler de mon point de vue et de ma pratique, en fait, du dessin de presse. La liberté d'expression, évidemment, elle s'inscrit dans un périmètre. Il n'y a pas de liberté d'expression absolue, et c'est un peu absurde et ridicule de le proclamer, et même de se proclamer martyr parce qu'on se fait interdire un dessin. Il y a un cadre, il y a un périmètre qui est d'abord celui d'une relation avec un lectorat. Donc toute expression... En l'occurrence, l'humour, la satire ou le commentaire dessiné s'adresse à un public. Donc, il se fait en connivence avec ce public. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans le dessin de presse classique, comme je le pratique, qui peut-être va changer fondamentalement, est déjà en train de changer, ça s'inscrit dans le monde de la presse, donc ça s'inscrit en relation avec un titre de presse, avec une rédaction, comme je vous ai décrit mon processus éditorial. Donc, cette liberté, elle doit être... Enfin, il faut plusieurs pour être courageux. Il faut un rédacteur en chef qui assume, qui publie un dessin. Il faut une rédaction qui a une ligne. Et moi, je suis, en tant que dessinateur, un des participants de cette belle chose qu'est une rédaction, quoi. Avec ce travail de curation sur l'actualité. Et donc, la liberté, elle a ses périmètres clairs. Après, c'est dans ce périmètre que je vais, de manière très décidée, je vais exercer ma liberté. Donc, de temps en temps, quand je sens qu'il y a un sujet qui titille la société, c'est d'aller aux limites de ce périmètre. Donc, on peut être un petit peu provocateur. Ce qu'on veut provoquer avant tout, c'est une réflexion, c'est une petite illumination. Je ne crois pas à la provocation juste pour provoquer et à l'exercice gratuit de la liberté. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que la liberté du dessinateur de presse, elle marche main dans la main avec une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est aussi bien définie dans la relation avec le public ou avec l'employeur, on va dire. Ça, c'est une chose. Et elle est aussi définie par une morale personnelle, par un compas moral qui va varier selon chaque dessinateur. Donc tout ce que je vous dis là, chaque dessinatrice ou dessinateur vous donnera sa propre définition et vous aurez 50 définitions de la liberté d'expression avec 50 dessinateurs de presse. Mais pour moi, le compas personnel, la limite à ma liberté, c'est simplement que je puisse la justifier. Je vais vous dire, c'est très simple. Si quelqu'un m'appelle, et c'est arrivé, qui a été personnellement touché, par exemple, j'avais fait un dessin sur un crash d'un avion de Swissair à l'époque, en une du temps, je crois, et j'ai reçu un coup de fil d'une veuve de quelqu'un qui était décédé dans ce crash et qui était profondément choqué par mon dessin. Donc pour moi, le test personnel, c'est un petit peu... Si je peux dire à cette personne ce que je lui ai dit, je suis vraiment désolé de vous avoir touché, de vous avoir fait de la peine, mais ce que moi, je voulais dire, c'est ça. Si je peux dire ça, c'est que je suis du bon côté... Si je me mets à ânonner et que je me rends bien compte que mon dessin était un peu gratuit et que je me suis un peu planté et que j'ai pas d'explication ni de justification à donner, c'est que peut-être, j'ai été un peu au-delà de la ligne que je me donne. Voilà, c'est un petit peu ma définition à moi.
Oui, vous parliez avant d'être libre à plusieurs, du rôle du rédacteur en chef et de l'équipe, comme si... Cette liberté d'expression, elle était attaquée et que c'était une question défensive par rapport aux dessins de presse et au journalisme. Comment est-ce que vous interprétez, alors qu'avant la liberté d'expression, c'était vraiment, enfin c'est toujours, on espère, un fondement de notre civilisation, et qu'on voit un petit peu cette montée de la censure qui nécessite que des personnes comme vous doivent monter au front pour défendre cette liberté d'expression. Comment est-ce que vous interprétez un peu cette évolution de la censure dans notre société ou de ce désir de censurer,
voilà. Bon, si vous voulez, le dessin de presse, il est... cœur de beaucoup de pression, il est un petit peu au cœur de la cible, mais il y a plusieurs axes. Il y a les pressions politiques, ça c'est un grand classique. Il s'exerce contre les dessinateurs de presse dans les pays surtout non démocratiques, dans les pays autoritaires, où là le dessin de presse joue son rôle totalement historique et on remonte à l'origine du dessin de presse à Daumier à 1830, d'opposition au pouvoir, de dire que le roi est nu, de se moquer du roi ou du pouvoir en place. Et dans 80% de la planète, cette réalité, elle reste vraie. Les dessinateurs de presse sont des combattants de la liberté d'expression au même titre que les journalistes. Ils expriment, eux, la critique à travers leurs dessins. Et souvent, ils subissent les pressions du pouvoir. Pressions directes sur leur sécurité, pressions économiques. Bref, on a une fondation qui... Cartooning for Peace à Genève, qui s'appelle maintenant la Freedom Cartoonist Foundation, qui donne un prix depuis 2012 à un dessinateur de presse dans le monde, non seulement pour son talent, mais pour son courage. Et donc, vous allez reprendre nos lauréats et vous allez trouver chaque fois des cas très clairs de gens qui ont subi la pression du pouvoir. Ça, c'est un grand classique. Ça arrive rarement dans nos démocraties. Je sais qu'il y a un dessin que Courrier International avait publié en une à l'époque de la guerre du Rwanda, où on reprochait à la France son attitude ambiguë avec ceux qui ont perpétré le génocide, les Hutus. Et c'était une couverture qui s'appelait « Tonton au Rwanda », sur évidemment calqué sur Tintin au Congo. Et on y voyait Mitterrand, surnommé Tonton, dans sa Jeep avec un paysage de cadavres. Et je sais que l'Élysée avait reçu la couverture la veille de parution et ils ont vraiment hésité à faire quelque chose, à essayer de saisir le journal, où ils étaient très très énervés. Donc c'est extrêmement rare que ça se produise. Mais la pression, c'est la pression du pouvoir. Ensuite, il y a la pression nouvelle et de plus en plus répandue, on le sait, des religieux, des susceptibilités religieuses. Et là, la forme la plus extrême de censure, ça a été le meurtre, évidemment, de Charlie Hebdo. L'assassinat, c'est la forme la plus radicale de censure. Comment faire taire quelqu'un ? Ben voilà, à coup de Kalachnikov. Et puis on a maintenant une pression de plus en plus... Donc ça, je vous dis, c'est pas mal, hein, ça fait quand même... le métier devient vraiment intéressant aujourd'hui. On a une pression de plus en plus marquée qui est en grande partie véhiculée par les réseaux sociaux, qui sont des amplificateurs de ces phénomènes, de susceptibilité, de dessins qui peuvent choquer tel ou tel groupe. Et cette pression s'ajoute à une autre pression, qui est la pression économique, qui fait que les journaux sont affaiblis et les rédactions, peut-être, ont de moins en moins d'appétit pour la controverse. Donc, les réseaux sociaux sont un amplificateur de réactions, cette fois venues du public, ou de certains groupes, qui peuvent être choqués par tel ou tel aspect d'un dessin. On a parlé du dessin de Xavier Gors sur l'inceste. Le cas s'est présenté il y a 2 ans au New York Times avec un dessin qui n'était pas de moi, mais qui a été perçu comme antisémite et attaqué. Et là aussi, la rédaction s'est retrouvée violemment attaquée. Mais la question que ça pose, c'est pas tant la question de la liberté d'expression, parce que c'est une liberté d'expression qui s'exprime à travers les réseaux sociaux. Là, c'est la question du rôle de la presse comme simplement... un rôle de garde-fou ou de garder sa ligne et d'assumer les messages, en l'occurrence les dessins qu'elle publie. Et ce qu'on a vu dans le cas du New York Times ou dans le cas du Monde, c'est des rédactions qui s'excusent. Et la gestion d'une crise par l'excuse, c'est quelque chose d'assez terrible et qui est dommageable, je pense, à la liberté d'expression, parce qu'on va s'imposer on va tracer une ligne rouge publiquement en s'excusant. Et on va se rendre la tâche extrêmement compliquée pour gérer la liberté d'expression à l'avenir par rapport à ses chroniqueurs, par rapport à ses dessinateurs, par rapport à ses journalistes, parce qu'on sera toujours par ce public qui a gagné, enfin ces groupes de pression qui ont gagné quelque chose, qui ont gagné un point, qui sont dont la revendication a été reconnue et avalisée par la direction du journal, eh ben ils auront beau jeu d'autres groupes de dire ah ben là vous êtes excusés, mais pourquoi vous excusez pas là? Quand vous choquez les noirs, eh ben, ça ne vous gêne pas de choquer les jaunes, etc., les rouges, les blancs. Voilà. Donc là, on est au cœur de pas mal de questions intéressantes qui menacent la liberté d'expression.
Et pourquoi vous pensez que ces rédactions cèdent aujourd'hui plus qu'avant ? Pour des questions simplement économiques, comme vous l'avez dit, ou aussi parce qu'ils adhèrent à l'idée qu'il ne faut pas offenser, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit ?
Parce que je pense qu'on est dans un air du temps... Qui encourage la gestion des crises par le principe de précaution, par l'excuse et par l'évacuation des gens qui sont perçus comme étant au cœur de la crise. Je pense que ça ne concerne pas les journaux, ça concerne toutes les institutions, publiques, privées, les entreprises. Une entreprise qui va se retrouver prise à partie sur Twitter... qui va se retrouver au centre d'un de ces shitstorms, comme on les appelle gentiment, elle va tout de suite se poser la question de la réaction de sa clientèle. Ces groupes de pression, ils vont justement utiliser ce levier, naming and shaming, Donc très vite, ça fout la pétoche et on se met un petit peu la queue entre les jambes et on s'excuse. Ça, c'est une réaction qu'on voit de plus en plus. C'est la gestion de la crise par le principe de précaution. Et je pense que c'est agir d'une manière anticipative, clientéliste, qui met en avant justement la prudence et les intérêts économiques et qui évacue la notion de la ligne éditoriale pour un journal, la volonté de... qui évacue surtout, à mon avis, la bonne manière de gérer une crise. Parce que pour moi, la bonne manière de gérer une crise, c'est de pas nier les problèmes, c'est au contraire de les thématiser, quoi, d'en parler. Je pense qu'il faut plus d'expression quand un dessin est attaqué, notamment sur Twitter, et qui crée une grosse polémique. Je pense qu'une rédaction doit communiquer sur ce dessin, expliquer pourquoi il est paru, pourquoi il a choqué certains, donner la parole justement à ces voix qui s'expriment et qui attaquent. Je pense que c'est une occasion chaque fois idéale de donner plus d'explications et non pas de faire taire celui qui a émis un propos gênant.
Et vous parlez de censure moralisatrice ou de susceptibilité généralisée dans cette mouvance de cette culture de vouloir ne pas être offensé, pour lesquelles les rédactions réagissent ou les entreprises réagissent par ce fameux principe de précaution que vous mentionnez. Comment vous interprétez un petit peu ce mouvement de vouloir ne pas être offensé et de demander qu'on soit respecté ou qu'on soit reconnu particulièrement
Ouais, on le décrit pas mal. C'est un peu à la mode de parler de la tendance woke et du politiquement correct importé des États-Unis. Mais c'est... En plus des phénomènes que je décris depuis quelques temps, notamment depuis l'affaire du New York Times aux États-Unis, puisqu'on m'a beaucoup demandé de m'exprimer là-dessus. Alors c'est assez amusant parce que moi qui, en tant que dessinateur, me suis souvent fait traiter de gauchiste, je décris des phénomènes qui, pour le coup, touchent pas mal la gauche, mais ce qui va faire sourire des jeunes loups libéraux comme vous. Mais en réalité, c'est que c'est très paradoxal ce qui se passe. Enfin, moi, je pense que les deux côtés sont tirés par leurs extrêmes. C'est ça le problème de l'époque. Et là où on se perd, c'est quand on ne se retrouve pas dans ces tiraillements aux extrêmes. Je pense que la gauche est un peu tiraillée entre des nouvelles formes de revendications qui sont portées par une génération plus jeune, qui est identitaire, sur les questions de genre, d'identité, et qui, je pense, sont des partent de bons principes et qui veulent un petit peu rétablir des inégalités, des choses qui sont inscrites dans nos réflexes. Et les clichés, par exemple, de l'humour évoluent. Franchement, on dessine pas les noirs comme dans Hergé, on a arrêté de le faire. Parce que, objectivement, il faut bien voir que notre regard a évolué. Donc, je m'abstrais pas du tout de cette logique, quoi. C'est vrai que pour moi, la liberté d'expression n'est pas incompatible avec l'écoute. Pas du tout. Donc, il faut être à l'écoute de la société ou du monde dans lequel, la manière dont on voit les choses aujourd'hui, et l'humour évolue. Ça, c'est une chose. Mais dans la susceptibilité généralisée, comme on l'a décrit, il y a une volonté de plus en plus grande de non seulement dire et faire reconnaître de manière bruyante avec le porte-voix des réseaux sociaux qu'on a été heurté, touché dans notre sensibilité parce qu'on a été représenté dans telle ou telle blague ou dans tel ou tel dessin d'une manière qu'on considère comme blessante. Et ça, c'est déjà une première méprise parce que je trouve qu'on a tendance à prendre de plus en plus le fait de se sentir heurté ou touché comme une attaque personnelle. Vous n'êtes pas remis, vous n'êtes pas attaqué dans votre personne, vous n'êtes pas remis en cause dans votre identité, forcément, si quelqu'un de votre groupe social ou autre est représenté avec un humour ou autre. Or là, on a tendance à faire une équation entre être heurté, ce qui fait partie du débat d'opinion, je ne sais pas vous, mais moi je suis heurté des fois par des trucs très cons que je lis, et le fait d'être blessé dans sa personne. Ça, c'est une chose, une méprise ou une susceptibilité un tout petit peu exagérée sur laquelle il faut faire peut-être de l'éducation. Et après, l'autre chose, c'est de vouloir que ce sentiment de blessure soit puni et de vouloir faire taire celui qui a choqué ou blessé. Et c'est là qu'on parlait avant des journaux qui sont censés être une digue, qui sont censés être ceux qui animent le débat, qui sont censés être ceux qui, justement, vont donner du sens et mettre de la distance, et bien dans certains cas, avec de telles polémiques, les journaux ont cédé, dans le sens où ils ont donné raison à cette vague de personnes offensées, blessées et susceptibles, et ils se sont excusés. Et ça, je pense que c'est une erreur. Puis de l'autre côté, c'est paradoxal, la parole n'a jamais été aussi libre, sur les réseaux sociaux justement, qui charrient souvent des torrents d'insultes, de rumeurs, de bêtises, de vulgarités assez effrayantes. Et donc, on n'a jamais été aussi libre d'insulter l'autre, de le traîner dans la boue. Et ces notions de politiquement correct et de cancel culture sont instrumentalisées à droite par des extrémistes qui disent qui veulent dissimuler leur discours haineux et raciste. Et là, on est, comme vous savez, la ligne est très ténue, mais on n'est plus dans la liberté d'expression. On est dans le discours haineux et raciste, dans l'appel à la violence, etc. Ils dissimulent tout ça derrière une défense de la liberté d'expression. Donc, c'est assez paradoxal, parce que je pense que on n'a jamais été aussi libre et on n'a jamais été autant soumis à des tentatives et des tentations moralisatrices. Et ce qui nous manque dans tout ça, c'est simplement un juste milieu où on pense presque avec nostalgie à l'époque pré-Internet, où on avait une parole publique qui était qui passait aussi à travers des experts et des médiateurs que sont les journaux. Et aujourd'hui, chacun peut dire tout ce qu'il veut, chacun s'érige journaliste ou expert, et ça donne cette grande cacophonie.
Oui, vous parlez du rôle des réseaux sociaux comme vecteur et comme amplificateur, mais qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux comme acteur, notamment Twitter qui a banni le compte de Donald Trump après sa défaite? Quel est votre regard par rapport à ce rôle-là, la censure qui vient ni des gouvernements, ni de la rue, mais des réseaux sociaux eux-mêmes?
Je suis à la fois très soulagé, comme beaucoup de gens, parce qu'on n'entend plus Trump depuis quelques jours, et c'est un silence franchement apaisant. C'est vraiment apaisant qu'il n'ait plus ce porte-voix, d'une part présidentielle, mais aussi à travers ses réseaux sociaux. Donc sincèrement, il y a un côté apaisant qui donne à réfléchir sur ce que les réseaux sociaux quand même font à notre discours civil et à nos démocraties, mais évidemment que c'est un petit peu préoccupant. Enfin, c'est une joie un peu suspecte, parce que évidemment on se pose la question de la légitimité d'un acteur privé, enfin de Twitter, Facebook et autres, du poids incroyable qu'ils ont dans le discours public et de la capacité tout d'un coup qu'ils ont de fermer le micro. Donc, ce qui nous ramène à, est-ce que c'est à eux, est-ce que c'est eux qui sont légitimes de faire des choses comme ça? Enfin, ça leur ramène à la question de leur responsabilité immense. Mais sincèrement, c'est compliqué cette histoire de réseaux sociaux, parce qu'on n'est que dans du paradoxe. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est formidable, ça libère, ça donne la possibilité à chacun d'avoir un impact. Ça donne la possibilité à des opposants, à des gens opprimés de s'exprimer. Ça donne la possibilité à mes camarades dessinateurs de presse en exil de continuer, iraniens ou syriens, de continuer à avoir un public. Et donc, c'est des formidables vecteurs de démocratie dans un sens et dans l'autre. Et je ne sais pas trop comment on va sortir de ce paradoxe, sincèrement. De l'autre côté, ils jouent un rôle profondément dommageable sur le discours public, le discours démocratique. Et là, je pense que c'est un des grands enjeux quand même, non seulement de liberté d'expression, mais un des grands enjeux civiques des années à venir.
Comment vous voyez l'avenir de la liberté d'expression? Et si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les 5, 10, 30 prochaines années par rapport au dessin de presse et à la liberté d'expression?
Si j'avais une baguette magique, tout d'un coup, on aurait Facebook et Twitter qui engageraient 30 000 journalistes au lieu d'engager 30 000 avocats et peut-être un éthiciste et deux philosophes pour se juste pour faire des relations publiques. Non, mais je pense qu'il faut, voilà, dans un monde idéal, on arriverait à, encore une fois, à concilier cette liberté d'expression qui est toujours plus grande et tant mieux, avec la capacité d'écoute de l'autre. Et je suis pas sûr qu'un monde dans lequel on a quand même un petit peu, enfin, cette formidable démocratisation que nous apporte Internet et les réseaux sociaux a aussi tendance à détruire tous les corps intermédiaires, les experts, les médias, tout ce niveau de curation. Et je crois quand même profondément à la curation. Et je crois profondément à l'expertise. Je crois qu'il y a des gens qui en savent plus que d'autres. Et je crois que tout le monde n'a pas la même chose à dire. Donc la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi par n'importe qui. Malheureusement, ça l'est aujourd'hui dans le monde de Twitter et de Facebook. Mais dans un monde, dans une société qui doit pouvoir fonctionner pour le bien commun, ça me paraît pas une bonne solution. Donc voilà.